Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Au sommaire ce soir, qui sera le vainqueur de la primaire populaire? 84% de participation au vote et les résultats sont attendus dans quelques minutes. Un scrutin novateur mais aussi critiqué et rejeté par certains candidats. Nous verrons quelles répercussions le vote pourrait avoir à gauche. On sera dans un instant avec Antoine Gignot. De nouvelles répliques au séisme Orpea et le scandale des maisons de retraite. Le groupe Orpea est ce soir sous la menace d'une action de groupe. Un anniversaire toujours très douloureux à Derry en Irlande du Nord, avec les commémorations aujourd'hui du 50e anniversaire du Bloody Sunday. Dans ce journal également, la crise ukrainienne et Moscou qui semble prêt à calmer les tensions. Et on s'intéressera au progrès de la recherche sur la fusion nucléaire, une véritable révolution énergétique. Vos rendez-vous du 19h avec la page sport et Raphaël Nadal qui est le plus grand. Nadal devient le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem après sa victoire aujourd'hui à l'Open d'Australie.
Si on réunit tous les éléments, le scénario, le moment, ce que cela signifie, alors oui, ça fait aucun doute, c'est le plus grand comeback de ma carrière, le plus inattendu aussi.
Nadal, 21 victoires en Grand Chelem devant Djokovic et Federer. Au menu également du football avec la Coupe de France et on s'intéressera au futsal, le football en salle. Notre rendez-vous friandise de ce 19h, c'est mon actu, Sandrine Houdin. Et micro ouvert ce soir à un ancien principal de collège qui a compilé pendant 23 ans les perles de ses élèves. La météo, pluie et vent fort attendus sur tout le pays demain. Une alerte vigilance orange pour vague submersion a été lancée sur le littoral du Nord. Jean-Michel Golinski, à la fin de cette édition, à 19h30, les petits bateaux Noël Bréham.
Bonjour, je m'appelle Billy Sheima, j'ai 8 ans. Je voudrais savoir si le soleil tourne autour de quelque chose ou s'il ne bouge pas. Merci.
Noël Bréham, après ce journal.
France Inter.
La fin du suspense de la primaire populaire à gauche. Dans quelques instants, on devrait savoir d'ici peu de temps qui est le vainqueur de cette primaire. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
En direct du Trabendo, parc de la Villette, pour l'annonce des résultats qui se font un peu attendre. Que se passe-t-il, Antoine?
Absolument, ce sont les responsables de la plateforme Néovote, le prestataire embauché par la primaire populaire, qui sont pour l'instant en train de dépouiller les derniers résultats avant de les communiquer à la haute autorité de contrôle. On devrait donc les avoir d'ici quelques minutes. Ce qui est certain, c'est que la plupart des candidats ont envoyé ici des représentants, même si ce n'est pas tout à fait officiel. On a aperçu par exemple dans la salle tout à l'heure Laurent Baumel, le représentant des responsables des relations extérieures du Parti Socialiste. Il y a aussi quelques élus écologistes et puis des militants de tous bords qui sont venus de l'ensemble de la France. La primaire populaire a réuni près de 5000 militants ces derniers mois, répartis dans une centaine de groupes locaux. Des militants qui sont là ce soir et qui sont évidemment très impatients d'attendre, très impatients de savoir quel va être le résultat de cette primaire.
Eh bien Antoine, on vous retrouve dès qu'on a les résultats avec 84% de participation au vote. La politique ce dimanche à l'extrême droite maintenant et l'ébullition toujours au Rassemblement National. Jordan Bardella, le président par intérim du RN, a dénoncé les méthodes déloyales d'Éric Zemmour qui promet de l'argent selon lui et des investitures aux législatives pour attirer les cadres du Rassemblement National. Et puis Jean-Marie Le Pen affirme aujourd'hui soutenir sa fille Marine, candidate du RN, tout en assurant avoir de la sympathie pour Éric Zemmour. Chez les Républicains, Valérie Pécresse a déclaré que le président est quasi candidat. Emmanuel Macron doit accepter, selon elle, un débat avant le premier tour de la présidentielle pour rendre compte, selon elle, de son bilan calamiteux et se confronter avec le réel. L'actualité de ce dimanche, c'est aussi la journée de mobilisation à Derry, en Irlande du Nord, une ville entre paix et plaie qui commémore aujourd'hui le douloureux 50e anniversaire du Bloody Sunday. Il y a 50 ans, lors de ce dimanche sanglant, 13 manifestants pour les droits civiques étaient abattus par l'armée britannique, une répression sanglante et l'absence de poursuites judiciaires pour ces auteurs ont été dénoncés aujourd'hui lors des rassemblements. Le souvenir des victimes innocentes était également au centre des commémorations avec des marches dans les pas des victimes du Bloody Sunday. Richard Place a suivi l'une de ces marches aujourd'hui à Derry.
Les habitants applaudissent le départ du cortège. Au premier rang, des enfants avec chacun une rose blanche dans les mains. Derrière eux, les portraits des victimes, de grandes photos floues en noir et blanc. Christian porte l'image de Zhou Yang, une épaisse tignasse noire abattue ce jour-là.
Nous sommes très fiers de marcher ici aujourd'hui. C'est primordial de garder en mémoire ce que le gouvernement britannique nous a fait ce jour-là. Nous marchons dans les pas des victimes, nos frères, nos pères. Nous réclamons toujours que justice soit faite.
Les manifestants suivent exactement le même parcours qu'il y a 50 ans. Ils descendent du haut de la ville pour finir dans le quartier du Bogside, où les militaires britanniques ont tiré et tué. Glenn arpente ces rues qu'il connaît par cœur, celles que son père descendait il y a 50 ans avant d'être abattu dans le dos.
C'est épouvantable de voir ce que l'on doit faire pour essayer d'obtenir une forme de justice de la part du gouvernement britannique. On pourrait s'attendre à ce que le système secoue la justice pour qu'elle agisse, mais elle n'existe pas en Irlande quand on parle des militaires britanniques.
Les noms des victimes sont égrenés sur un air de flûte dans un silence lourd. Le ciel hésite entre soleil et pluie comme la foule, qui ne sait plus si elle doit sourire de cette marche, digne et belle, ou pleurer sur cette tragédie et l'injustice qui perdure. Derry Richard Place, France Inter.
La crise ukrainienne, et alors que la Russie entretient le doute depuis plusieurs semaines sur une possible offensive contre l'Ukraine, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, affirme dans une interview qui sera diffusée ce soir à la télévision russe qu'il souhaite des relations respectueuses avec Washington. Moscou semble prêt à calmer les tensions. Sur place à Moscou, Paul Gogo.
Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, est à la tête de cette séquence diplomatique qui dure depuis plusieurs semaines. Alors que le Kremlin se fait discret, entretient le risque d'une escalade militaire, ce sont les diplomates russes qui montent au créneau. Après plusieurs semaines d'escalade et tensions, Moscou semble prêt à calmer le jeu. Dans une interview diffusée sur une chaîne fédérale, Sergueï Lavrov a affirmé souhaiter avoir de bonnes relations équitables, mutuellement respectueuses et égales avec les États-Unis. Le ministre a rappelé l'objet du mécontentement russe, regrettant une position dans laquelle la sécurité de la Russie serait régulièrement violée et un rapprochement systématique des soldats de l'OTAN à proximité de ses frontières. Pour Moscou, la séquence semble entrer dans une nouvelle ère. Le déploiement de forces a contraint les différents acteurs au dialogue. C'est une première victoire pour le Kremlin. Les négociations pourraient reprendre un rythme plus calme. Avec des objectifs rappelés par le ministre, il s'agit pour la Russie d'obtenir des assurances, des engagements politiques sur le papier, mais aussi des garanties juridiquement contraignantes qui prendraient en compte les intérêts légitimes de la Russie. Moscou, Paul Gogo, France Inter.
Et ce soir, l'Ukraine demande à la Russie de retirer ses troupes massées le long de la frontière. De nouvelles répliques au séisme Orpea après les révélations cette semaine de Victor Castanet dans son livre Les Fossoyeurs. Le journaliste révèle de mauvais traitements infligés aux pensionnaires des établissements de ce groupe de maisons de retraite, rationnement de nourriture, soins et maltraitance, et des questions qui se posent aussi sur le financement de ces établissements avec une part d'argent public de l'État. Claude Évin, ancien ministre de la Santé, a également dirigé l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et il avait lancé une alerte pour une réforme d'ampleur de la tarification des EHPAD après avoir constaté des dérives financières dans un autre groupe géant du secteur, le groupe Korian. Claude Évin.
Ce qu'on appelle les dispositifs médicaux, hein, c'est notamment, mais pas uniquement, les couches et le renouvellement effectivement de ces produits, mais c'est aussi l'acquisition de toute aide technique, notamment face à une dégradation de l'autonomie des personnes âgées. Et donc, ce que j'avais constaté, c'est qu'il y avait une différence entre les dotations qui étaient accordées à l'établissement et ce qui apparaissait réellement dans les dépenses de l'établissement. Et j'avais en effet fait alerter le ministère pour demander à ce qu'il y ait une enquête qui puisse être menée sur l'ensemble du groupe, puisque naturellement, n'ayant la responsabilité que de l'Île-de-France, je ne pouvais pas avoir d'appréciation sur l'ensemble du groupe.
Claude Évin avec Jules Dequille sur France Info. Et la tourmente n'est pas près de s'éteindre ce soir pour le groupe Orpea, sous la menace d'une action de groupe. Selon le journal Le Parisien, les témoignages continuent de se multiplier, y compris de personnel. Plusieurs familles veulent porter plainte. C'est une triste histoire qui avait beaucoup fait de bruit lors du premier confinement en avril 2020. Un habitant du Loir-et-Cher avait été refoulé à un barrage de gendarmerie sur l'île de Ré et empêché de partager les derniers instants de lucidité de son père en train de mourir d'un cancer. Ce déplacement en plein confinement constituait bel et bien un motif impérieux, mais la gendarmerie avait reconnu d'ailleurs son erreur publiquement, une erreur de compréhension, et bien sûr l'amende de 135 euros avait été annulée. C'est insuffisant pour Patrick Dupas, il réclame désormais une indemnisation de l'État pour préjudice moral. Patrick Dupas a pris un avocat pour déposer un recours et demander réparation devant la justice, une façon pour ce vigneron du Loir-et-Cher de terminer son deuil. Patrick Dupas répond à Julien Fleury de France Bleu à La Rochelle.
L'argent, je vais le prendre, ça c'est sûr. Ça ira pour mes enfants, mais c'est le principe. Bah, quand on fait une erreur, ça se paye. Moi, ça va m'apaiser parce que pour l'instant, le deuil, je ne l'ai pas fait. Le pont de l'île de Ré, le fameux passage du contrôle, je rêve encore de le forcer. Bon, malheureusement, je ne serais pas allé très loin avec le scénic. Mais voilà, il y a un père qui n'a pas pu voir son fils et un fils qui n'a pas pu voir son père. Ce que je dis aux gens, mettez-vous à ma place. Quelqu'un qui est malade, un père, une mère, on va le voir. On le laisse pas tout seul. On m'a interdit de le voir. C'est pas normal. Quand mon père, qui était encore un peu conscient à ce moment-là, a su qu'on m'avait refoulé, il est parti en convulsion et les médecins ont décidé, avec l'accord de tout le monde, de le sédater parce que c'était une grosse souffrance morale pour lui. La gendarmerie a répondu, ils ont pas compris. Bon, mauvaise compréhension. Voilà. Mais c'est tout le service de l'État qui a défailli. C'est le gendarme qui n'a pas compris, c'est la gendarmerie qui n'a pas répondu et c'est la préfecture qui n'a pas écouté. Donc voilà, pour eux c'est fini. Bah non, c'est pas fini.
Jérémy Ladrette de la Charrière, incarcéré dans une affaire de pédopornographie. Le fils de l'homme d'affaires, Marc Ladrette de la Charrière, âgé de 44 ans, a été écroué le 15 janvier dans l'attente de son procès pour importation, enregistrement et détention d'images pédopornographiques. Près de 4000 fichiers mettant en scène des mineurs ont été découverts à son domicile parisien. Et puis la mère de l'enfant retrouvé mort dans une valise à Ferrières-en-Brie en Seine-et-Marne a été mise en examen ce soir pour homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans, soupçonné d'avoir tué son fils de 10 ans. Cette femme a été écrouée. Elle va être présentée à un juge d'instruction. On appelle ça un soleil artificiel, la fusion nucléaire, une véritable révolution énergétique. Et les scientifiques affirment avoir réalisé une avancée historique. Maîtriser un jour la fusion nucléaire, c'est en quelque sorte un graal qui permettrait de disposer d'une énergie quasi illimitée et sans déchets. La fusion, contrairement à la fission pratiquée actuellement dans les centrales nucléaires, nécessite une maîtrise de processus techniques et physiques complexes avec des contraintes techniques immenses au point que certains scientifiques ont longtemps cru que cela serait impossible. Eh bien, une équipe américaine est pourtant parvenue à franchir une étape majeure dans la prestigieuse revue Nature. Elle publie les résultats d'une réaction de fusion qui produit autant d'énergie qu'elle en consomme. Les explications de Sophie Becherel.
Pour réaliser cette expérience de fusion, des centaines de faisceaux laser bombardent une cible de combustible de 2 mm de diamètre pendant une fraction de seconde. Comprimée, elle se transforme en un plasma brûlant au cœur duquel les noyaux d'hydrogène vont fusionner et générer une chaleur. Pour avoir un intérêt, cette chaleur doit auto-alimenter le système. Les Américains viennent de franchir une étape majeure, explique Éric Lefebvre, responsable au CEA de la réalisation des expériences au laser mégajoule situées à Bordeaux.
C'est un petit peu comme quand on cherche à allumer un feu de cheminée. On dispose des bûches, au centre des bûches, on met des brindilles et puis on commence par allumer les brindilles. Donc pendant 10 ans, les expériences américaines ont permis de faire brûler les brindilles de mieux en mieux. Ce sont les premières expériences où le feu qui a pris dans les brindilles a commencé à faire rougeoyer les bûches qui étaient placées autour.
L'étape franchie par l'équipe américaine ne règle pas tout, concède Sébastien Lepape, chercheur à Polytechnique et co-auteur de ce travail.
Ça nous fait avancer considérablement parce qu'on a prouvé que c'était possible. Il y a encore beaucoup de gens qui doutaient même de la faisabilité d'arriver à produire autant d'énergie qu'on en met dans le système. Maintenant, pour arriver à un réacteur à fusion pour l'énergie, il reste encore beaucoup de travail.
Des dizaines d'années, vraisemblablement.
C'était Sophie Becherel. Et on retourne au Trabendo, la salle de spectacle du Parc de la Villette où nous attend Antoine Gignoux. Alors ça y est-ce qu'on a le nom du vainqueur de la primaire populaire, Antoine ?
Alors non, pas toujours, toujours pas, j'ai envie de vous dire. On est en train de nous donner la participation, 84,1%. Ça fait 392 000 personnes qui ont voté ces trois derniers jours, ces quatre derniers jours. Et la haute autorité de contrôle est en train, en ce moment, d'annoncer sur la scène le résultat de cette primaire populaire. Et ça prend du temps. Je ne peux que vous dire que ça prend du temps.
Eh bien Antoine, on vous retrouve dès que le temps voulu sera écoulé et qu'on aura le nom du vainqueur qui est de cette primaire populaire à gauche. Il est 19h14 sur France Inter. La page sport de cette édition. Bonsoir Emma Sarango.
Bonsoir.
Duel d'anthologie et sacre d'une légende à Melbourne.
Raphaël Nadal remporte l'Open d'Australie face au numéro 2 mondial, le russe Daniil Medvedev, au bout de plus de 5 heures de jeu. Et celui qui nous racontera le mieux ce combat acharné, c'est Fabrice Abgral qui a suivi toute cette compétition et cette finale pour France Inter. Fabrice, le Mallorquin a signé dans cette nuit australienne une victoire historique.
Ah oui, c'est vrai, cette finale de l'Open d'Australie restera dans les annales à plus d'un titre. D'abord par le niveau de jeu proposé par Nadal et Medvedev. Les deux joueurs se sont rendus coup pour coup, mais c'est Nadal qui s'est montré le plus fort, le plus impressionnant. Impressionnant de courage et de volonté. L'Espagnol était mené 2-7-0 et il est revenu au score pour finalement l'emporter en 5-7 au terme d'un match homérique de 5h28. Nadal a puisé dans ses ressources pour renverser une situation désespérée. Mais Nadal, vous le savez, c'est un guerrier qui s'est imposé véritablement au bout d'un effort intense, une victoire phénoménale qui entre dans l'histoire en plus maintenant du tennis, puisque Rafael Nadal a remporté son 21e titre du Grand Chelem pour détenir seul désormais le record du nombre de titres majeurs. Il dépasse Roger Federer et Novak Djokovic, 21e titre en Grand Chelem, mais aussi le deuxième à Melbourne où il s'était imposé en 2009, 13 ans après. Il soulève la coupe sur le court qui lui réussit en plus le moins, puisque Nadal restait sur 4 finales perdues à Melbourne. Mais là, il a signé la victoire la plus importante et peut-être même la plus émouvante de sa carrière. Rafael Nadal devient aux côtés de Djokovic le deuxième joueur de l'histoire à remporter au moins 2 fois chacun des 4 grands chelems.
Victoire sans doute la plus inattendue aussi, Fabrice.
Ah, clairement, personne n'attendait la victoire de Nadal et lui-même d'ailleurs ne s'accordait que peu de chances de l'emporter avant cette Open d'Australie. Mais Nadal est un phénomène de résilience et pour cause, hein, l'Espagnol est arrivé en Australie après 6 mois d'absence en raison d'une blessure au pied gauche. Durant cette période, il s'est posé beaucoup de questions. Il s'est même demandé s'il allait retrouver son meilleur niveau. Il n'arrivait pas à s'entraîner ou à peine, mais il s'est accroché. Il a réussi à se soigner, à revenir sur le court, mais il n'avait aucune certitude sur son niveau. Et puis il est arrivé en Australie et puis là, comme par magie, eh bien, tout est revenu. Il a remporté un tournoi de préparation. Et à Melbourne, il a enchaîné 7 victoires d'affilée, dont la dernière, un véritable chef-d'œuvre aujourd'hui. À la fin du match, il était heureux, comblé et particulièrement incrédule. Il avait dit avant la finale qu'il était là pour gagner, mais que l'essentiel n'était pas là. Pour lui, le plus important, c'est d'être heureux, heureux d'être simplement sur le court et qu'un 21e titre ne changerait pas sa vie. Le plus important, c'est de se sentir vivant. Et il n'est pas ridicule aujourd'hui de penser que Nadal pourrait porter à 22 le record du nombre de titres majeurs s'il remporte à Roland-Garros, là où il s'est imposé depuis 2005 à 13 reprises.
Épreuve que le tennis est fair-play. Ses rivaux l'applaudissent ce soir. Impressionnante combativité. Salut Novak Djokovic. Incroyable éthique de travail pour Roger Federer.
Alors Emma, on va faire un petit écart dans cette page sport, puisqu'on a le nom du vainqueur. C'est Christiane Taubira qui remporte la primaire populaire, Antoine Gignoux. Ça y est, on a le nom.
Avec la mention bien plus, oui, elle arrive en tête de ce classement. Enfin, du suspense qui n'en était donc pas réellement un, puisque Christiane Taubira a toujours été la favorite de ce scrutin. Elle arrive en tête devant Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon est troisième, Pierre Larouturou quatrième et Anne Hidalgo arrive seulement cinquième. C'est là que le scrutin peut avoir une influence sur la future politique de la gauche pour la présidentielle. Il y a ce soir dans la salle des représentants du Parti Socialiste. Reste à savoir maintenant comment tout le monde va se positionner face à ce résultat. Ce qui est certain, c'est que Christiane Taubira l'a déjà dit, elle viendra rejoindre les militants de la primaire populaire dans la soirée.
Merci Antoine Gignoux. Christiane Taubira donc qui remporte la primaire populaire. On reprend le cours de cette page de sport avec la Coupe de France du football, c'est important aussi.
Oui, après l'exploit de Versailles, tombeur hier de Toulouse en 8e de finale, l'autre petit pousset s'attaque à un club de l'élite, Bergerac, National 2. La 4e division accueille Saint-Étienne, dernier de Ligue 1, et ça se passe à Périgueux, Théo Schuster. Est-ce que vous entrevoyez un miracle, Théo? On est à la mi-temps.
Entrevoir, je sais pas, mais en tout cas, il est toujours possible ici à Périgueux pour cette équipe de Bergerac dans un match qui, franchement, sent bon la Coupe de France. Un petit poussé, le Bergerac Périgord FC face à l'AS Saint-Étienne. Tous les éléments sont réunis pour écrire une belle histoire. D'un côté, cette équipe de Bergerac, des amateurs qui sont premiers de leur poule en National 2, l'équivalent de la 4e division, qui ont un tout jeune entraîneur de 33 ans et une série de joueurs surtout qui sont aux portes peut-être de leur plus grand exploit. Et puis de l'autre côté, la Saint-Etienne, le club aux 6 victoires en Coupe de France, un club mythique mais en grande difficulté en ce moment car bon dernier du classement de Ligue 1. Ajouté à cela, près de 4000 spectateurs surchauffés. Hein, Pascal Duprat, l'entraîneur de Saint-Etienne en mission. Et puis Patrick, le speaker de Bergerac, complètement mythique, qui essaye de chauffer la foule. Vous avez en fait tous les ingrédients pour un beau spectacle aujourd'hui au stade Francis Rongieras de Périgueux, même si pour l'instant la première mi-temps laisse un petit peu à désirer, peu d'occasions.
Et ce soir à 21h, la suite de ces huitièmes de finale entre deux clubs de Ligue 1, Lens et Monaco, la Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte de Mohamed Salah s'impose en quart de finale de buts à 1 face au Maroc.
Alors Emma, on va pas mâcher nos mots, c'est une grosse, grosse déception pour les handballeurs français à Budapest.
Pas de médaille pour les Bleus qui échouent encore en petite finale, 35-32 face au Danemark après prolongation et terminent donc quatrième de 7 euros. C'est dur pour la star de l'équipe, Nicolas Karabatic.
On bataille toute la compète, on arrive et on passe deux fois à rien des médailles, que ce soit en demi-finale ou là ce soir. Donc c'est triste parce qu'on est présent, on a tout et on peut se mettre à l'abri en fin de temps réglementaire. On le fait pas, là on la commence très mal, on se tire une balle dans le pied tout de suite. Donc ouais, c'est rageant et c'est triste parce qu'on y est, on s'est battu, on a tout mis et c'est triste de pas se récompenser. Ça fait une compétition vraiment très bizarre à jouer, donc là on a qu'une seule envie tous, c'est de boire une bière entre nous et de rentrer à la maison.
Une bière pour les Bleus et du champagne pour l'un des finalistes. Actuellement, l'Espagne mène 16-15 face à la Suède. Et puis du renfort pour les Bleus du rugby en vue du tournoi des Six Nations. Antoine Dupont et Romain Tamac, d'abord écartés car positifs au Covid, sont rappelés par Fabien Galthié pour le stage de préparation. Mathieu Jalibert, forfait pour blessure, rejoint également ses coéquipiers à 6 jours de l'ouverture du tournoi.
Un coup de projecteur maintenant sur un sport qui monte, qui monte, qui monte. Et des Bleus qui prennent goût. Le futsal, le football en salle, qui oppose deux équipes de 5 joueurs dans un gymnase, commence à percer en France. Il connaît un vrai développement avec 30 000 licenciés, un nombre qui a doublé en 10 ans. Et en ce moment se tiennent les championnats d'Europe. Malheureusement, l'équipe de France, encore très jeune dans la discipline, n'a pas pu se qualifier. Mais les Bleus sont en Croatie pour un tournoi amical. Une équipe de France de futsal très ambitieuse qu'Adel Belloumri a rencontré. Les Bleus avec pour objectif le prochain Euro en 2026. C'est le long format de ce soir.
C'est à Clairefontaine que les Bleus se sont préparés pour ce tournoi amical. L'équipe de France Futsal, 21e au classement mondial, est en pleine construction et le sélectionneur Raphaël Reynaud a un objectif, l'Euro 2026.
La Coupe du Monde, les qualifs vont commencer à partir de septembre. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a que 7 qualifiés sur la zone Euro. Notre classement aujourd'hui ne nous interdit évidemment pas d'être ambitieux pour aller à cette Coupe du Monde. Donc on préfère avoir vraiment en tête l'idée d'être très très performant au championnat d'Europe.
Pour cela, les Bleus pourront compter sur leurs joueurs cadres comme Sid Bellage, sans sélection avec l'équipe de France depuis 2012. En 10 ans, le joueur du Sporting Club Paris l'avoue, le niveau du futsal français a bien changé.
On a des clubs qui se structurent de mieux en mieux, on attire des joueurs de plus en plus gros calibre dans notre championnat. On a aussi des joueurs qui signent de plus en plus à l'étranger dans des grands championnats. Donc tout ça, ça fait que ça se ressent sur les résultats de l'équipe de France.
Il y a aussi des joueurs aguerris de plus en plus tôt grâce à la formation. C'est le cas de Jérôme Pasquier, 20 ans.
J'ai démarré le futsal à 9-10 ans, en parallèle du football. Et donc à 14-15 ans, j'ai pris la décision d'arrêter le football pour me consacrer au futsal.
Il joue aujourd'hui à Nantes en D1 en poursuivant ses études et a déjà l'ambition de faire plus connaître sa discipline.
On aimerait bien que les gens rêvent d'être futsaleurs, mais pour ça, on sait qu'il y a encore pas mal de travail parce que si on veut toucher un maximum de monde et faire rêver, on va dire, les enfants, évidemment, il faut jouer l'Euro, il faut jouer les Coupes du Monde, il faut jouer les grandes compétitions et se mettre à hauteur de l'équipe de France Football A.
Contrairement à d'autres nations comme la Russie, le Kazakhstan ou encore l'Italie qui comptent plusieurs joueurs brésiliens naturalisés dans leur effectif, la France s'appuie-elle sur son vivier et la formation des jeunes, avec notamment le Pôle Espoir fondé en 2018. Philippe Lafrique est chargé du développement du futsal à la Fédération Française de Football.
On le voit en football à 11, c'est la France qui fournit le plus d'internationaux dans les championnats européens. On doit puiser dans ce vivier en faisant de la formation, puisque c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps qu'on fait de la formation futsal. Avec l'exemple du Pôle, on peut être un jeune et choisir le futsal de bonne heure, alors qu'avant c'était pas possible. On arrivait au futsal à 18, 20, 25 ans. Maintenant, on peut y aller dès les 13, 14, 15 ans. Là vraiment c'est lancé. Maintenant, il faut qu'on mette le coup d'accélérateur.
Un coup d'accélérateur qui doit passer par le championnat d'Europe de futsal en 2026 que la Fédération française aimerait plutôt organiser. De quoi mettre un coup de projecteur à la discipline en France.
Le futsal, long format, Adel Belloumri.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine et on ouvre la page agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient et on reparlera la semaine prochaine des répercussions à gauche après la primaire populaire, le vote et la victoire de Christiane Taubira. Une date aussi importante à cocher sur le calendrier, mercredi, on assouplit la levée d'une partie des restrictions sanitaires face au Covid, fin des jauges, fin du masque en extérieur et le télétravail n'est plus obligatoire. Sur l'agenda judiciaire, ouverture demain du procès à Grenoble de Nordal-Landais pour le meurtre de la petite Maëlys, 8 ans, en 2017. Et puis, le rendez-vous de la campagne présidentielle de la semaine prochaine, c'est à noter pour mercredi, le grand oral des candidats devant la Fondation Abbé Pierre. Sur l'agenda international et sportif, le rendez-vous majeur de la semaine, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, des Jeux sur fond d'épidémie de Covid. Mais la Chine entend bien profiter de cet événement pour adresser plusieurs messages, Sébastien Berriot.
Premier message fort, la Chine n'est pas isolée sur la scène internationale. Malgré le boycott diplomatique initié par les États-Unis, Xi Jinping va profiter de l'événement pour s'afficher aux côtés de nombreux dirigeants de la planète qui, eux, feront bien le déplacement de Vladimir Poutine jusqu'au secrétaire général de l'ONU. La Chine va aussi saisir l'occasion pour faire valoir sa puissance technologique avec une image qui devrait faire le tour du monde lorsque la flamme olympique montera à bord d'une voiture sans conducteur. Et puis ces Jeux olympiques vont permettre à la Chine de faire un sérieux pied de nez au reste du monde sur la maîtrise de l'épidémie de Covid et l'efficacité de la politique chinoise zéro Covid. Une arme toutefois à double tranchant, une forte reprise de l'épidémie pendant les Jeux n'est pas à exclure, ce qui évidemment aurait un effet catastrophique pour l'image de la Chine.
Voilà, début des JO vendredi à Pékin. Voilà pour l'agenda de la semaine. Votre rendez-vous du dimanche 19h, c'est mon actu, Sandrine Houdin. Et ce soir, Sandrine a ouvert son micro à un principal de collège d'Orléans, Patrice Romain. Aujourd'hui retraité, il a décidé de publier toutes les perles d'élèves qu'il a compilées pendant 23 ans sur un petit cahier. Le livre s'appelle « Collégien casse-couille ». Les profs en voient de toutes les couleurs. 300 pages de répliques drôles, tendres, impertinentes ou insolentes. De l'élève de 6e, encore innocent, à celui de 3e qui veut dicter sa loi. On entre dans le secret du bureau d'un principal. C'est mon actu, Patrice Romain.
Un jour, je reçois un coup de fil, la personne me dit « Ah, voilà, je voudrais excuser mon fils qui ne sera pas là aujourd'hui. » Bon, ok. Donc je dis « Mais qui est à l'appareil ?» Et là, j'entends « C'est mon père, monsieur. » Voilà, un petit sixième.
Quoi d'autre ?
J'ai une élève qui me dit « Ouais, pourquoi est-ce que je suis puni ? J'ai offert un bonbon à la prof. » Je trouve ça un petit peu louche. Le bonbon, c'était en fin de compte un tic-tac à la menthe, c'était pour son haleine. Évidemment, j'essaie de ne pas rire devant l'élève. Je ne peux que pincer les lèvres, me pencher sous mon bureau pour faire semblant de chercher quelque chose et pour pouvoir sourire sans qu'elle me voie. Mais c'est extraordinaire. C'est tellement spontané. Et plus on monte, et plus on a des punchlines. Les troisièmes, ils sont plus dans les punchlines.
C'est-à-dire?
Quand, par exemple, vous avez un professeur qui dit à l'élève, avec ta mèche, on dirait Justin Bieber, ben, boum, boomerang, l'élève lui répond, vous, on dirait Obélix. L'élève parle toujours sans filtre. Ils sont cachés, les enfants, ils sont cachés. Hein. Il y en a un qui dit « Ah, oh, monsieur, elle m'a exclu, mais c'est parce qu'elle avait ses règles. »
Il y a le portail aussi.
Ah bah oui, le portail, l'élève escalade le portail, mais c'est pas de sa faute, hein. C'est à cause du surveillant qui a fermé le portail à clé. Et le gamin, il est sérieux quand il dit ça.
Allez, encore.
Par exemple, lorsqu'on surprend un élève en train de consulter un site pour adultes, il la joue copain entre hommes, limite, il me fait pas un clin d'œil, il me dit « Ah, monsieur, vous l'avez jamais fait à mon âge ?»
Ah oui.
Alors on a aussi les élèves qui pensent dire des choses gentilles. Par exemple, au lieu de dire à une prof qu'elle est mignonne, il lui dit « Ah vous, vous êtes bandante !» Ou alors, à contrario, « Ah madame, vous êtes mieux quand vous avez le masque !»
Dans les meilleurs.
Ah ben, lorsque je demande à l'élève ce qu'il veut faire plus tard, il me dit « Ah moi, je serai jamais président de la République !» Je fais « Ah bon, pourquoi ?»« Ah oh, parce que j'ai pas du tout envie de me marier avec ma prof de français hein. !»
Pourquoi dévoiler tout ça ?
Ben parce que c'est la vraie vie. La plupart de ces anecdotes se sont déroulées dans mon bureau, en off, entre les élèves et moi. Ni les professeurs, ni a fortiori les parents sont au courant de ce qui se passe dans le bureau d'un principal. Pendant 40 ans, moi, j'ai eu beaucoup de grands discours sur les élèves, des conférences, des livres de grands pédagogues qui ne sont pas souvent allés dans une classe. Si ça pouvait permettre aux parents comme aux professeurs de mieux appréhender les élèves, et peut-être aussi à nos décideurs de voir que ce n'est pas si simple que ça sur le terrain, eh bien j'aurais gagné.
Voilà, le livre « Collégien casse-couille, les profs en voient de toutes les couleurs » vient de paraître aux éditions de L'Opportun. Au générique de cette édition, un grand merci à Adèle Caglar et Clément Berman en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal, avec Anne Patinec à la rédaction en chef, assistée de Swad Bellani et Hélène Barbet. Un grand merci à l'équipe, un grand merci à vous d'avoir écouté ce journal. La météo dans un instant.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Un temps perturbé et venté demain avec des rafales de nord-ouest à 70 km à l'heure près de la Manche, 90 du Cap Grinet à la frontière belge, avec un risque de submersion marine à la mi-journée du littoral dunkerquois placé en vigilance orange. Autre secteur où le vent va souffler fort demain, le quart sud-est avec une tramontane à 100 km à l'heure entre les Corbières et le littoral et de fortes rafales l'après-midi sur la région PACA pouvant dépasser les 120 km à l'heure sur le Var et les Bouches-du-Rhône. Avec ce vent quasi tempétueux, les nuages vont rester à l'écart du secteur méditerranéen. Des éclaircies vont également rapidement s'imposer sur le quart nord-ouest du pays, alors qu'entre les Pyrénées, le Massif central, les Alpes du Nord, les Vosges et les Ardennes, le ciel sera maussade, avec de la neige souvent à basse altitude sur tous les massifs. Au lever du jour, on évitera souvent les gelées, mais avec des températures plus fraîches à l'est et comprises entre 1 et 4 degrés.
Jean-Michel Golinski de Météo France.